Bonjour à tous et merci d'être venus pour ce premier débat qui a lieu à la Sorbonne, dont l'intitulé « Les intellectuels n'ont pas toujours été de gauche ». Alors effectivement, depuis une dizaine d'années, voire davantage, il y a une sorte de guerre des idées, un peu rompue à l'invective, qui se mène à coups de journaux, de plateaux médiatiques entre peut-être les dits progressistes attachés à défendre une société égalitaire et pluraliste, et puis face à ces dits progressistes, les dits réactionnaires qui critiquent cette gauche moralisatrice. Et sous cette étiquette de néo-réactionnaire qui radicalise une pensée traditionnellement de droite, des journalistes, des philosophes, des historiens, en bref, des intellectuels, qui se retrouvent à travers, par exemple, la volonté de transgresser le politiquement correct ou sur fond parfois de discours décliniste, avec une certaine obsession de l'identité nationale ou européenne, et l'idée que la dynamique égalitaire pousserait la France à prendre congé de sa civilisation. Or, donc, dans quelle mesure cette mobilisation, avec ses valeurs, portées par une catégorie, les intellectuels, nous renvoie-t-elle aux origines même de la naissance des intellectuels, avec ses combats et sa bipolarisation? Qui sont donc ces intellectuels de droite qui élèvent la voix pour faire entendre leur conception de la société, donc à la fin du 19e siècle, au moment de l'affaire Dreyfus, au moment où ce statut d'intellectuel, justement, se popularise et se définit. Et donc, pour mettre en perspective historique cette problématique de l'intellectuel de droite, nous sommes avec Olivier Dard, qui est bien sûr historien, professeur à l'université de Paris 4, Claire Blandin, maîtresse de conférence à Paris 12 Villetaneuse, c'est ça,
à l'université Paris-Est Créteil.
Pardon, Paris-Est Créteil. Et puis Michel Vinoc, historien et professeur émérite à Sciences Po. Alors on pourrait peut-être commencer avec vous, Michel Vinoc, sur cet intellectuel de droite qui naît de toute évidence au moment de l'affaire Dreyfus, mais qui refuse d'être un intellectuel. Terme d'intellectuel, en tous les cas.
Alors, il existe un préjugé durable, effectivement, selon lequel l'intellectuel est forcément de gauche. Historiquement, il n'en est rien. Les intellectuels de droite ont toujours existé et parfois, ils étaient plus nombreux que les intellectuels de gauche. Alors, d'où vient ce malentendu? De l'affaire Dreyfus, effectivement. Le mot d'abord intellectuel, qui existait surtout sous la forme d'adjectif, est devenu un substantif sous la plume de Clémenceau. En janvier 1898, après le J'accuse de Zola, la presse publie une série de pétitions qui réclament la révision du procès Dreyfus. Or, Clémenceau, qui commente ces pétitions, dira à propos des signataires « ces intellectuels ». Voilà, le mot est lancé. Mais les adversaires, c'est-à-dire les anti-Dreyfusards, vont immédiatement prendre ce mot et s'en moquer, en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette prétention de ces gens qui, sous prétexte qu'ils sont professeurs ou écrivains, en saurait plus que tout le monde sur le procès Dreyfus ». Et à ce propos, je voudrais vous lire la réaction d'un grand critique littéraire qui s'appelle Brunetière, Fernand Brunetière, qui écrit et qui explique bien le malentendu. Et cette pétition que l'on fait circuler parmi les intellectuels, le seul fait que l'on ait récemment créé ce mot d'intellectuel pour désigner comme une sorte de caste nobiliaire les gens qui vivent dans les laboratoires et les bibliothèques, ce fait seul dénonce un des travers les plus ridicules de notre époque. Je veux dire la prétention de hausser les écrivains, les savants, les professeurs, les philologues au rang des surhommes. Bon, voilà donc l'idée des intellectuels de droite, c'est qu'ils refusent ce mot-là car il est porteur d'une prétention insupportable. Maurice Barrès, qui sera sans doute la figure de proue intellectuelle de l'anti-dreyfusisme, va en rajouter et dans ses articles, dans ses éditoriaux, va se moquer des intellectuels.
Il va les traiter de majorité, alors, de nigauds, etc. Hein, c'est vrai qu'il y a une sorte
absolument
de mépris.
Alors, nous avons une guerre de pétitions entre les dreyfusards et les anti-dreyfusards qui sont signées par des intellectuels, mais les seuls qui se disent intellectuels, ce sont les dreyfusards. D'où un premier malentendu, n'est-ce pas ? Les intellectuels sont de gauche parce que, voilà, ce sont les dreyfusards. Et alors, bien entendu, par la suite, les intellectuels de droite ont compris que le mot intellectuel était tout de même valorisant, dans un certain sens. Ils avaient beau s'en moquer, mais c'était tout de même insupportable d'en être exclu, n'est-ce pas, de cette élite, de cette caste nobiliaire. De sorte que, après la guerre, après la Grande Guerre, on voit une évolution, et c'est ainsi que paraissent des manifestes qui commencent. Alors, ça commence par manifeste de l'intelligence française. On n'a pas encore dit intellectuel. Mais à mon avis, le point déterminant, c'est 1935, au moment de la guerre d'Éthiopie. Il y a encore une fois la bataille de pétition entre ceux qui attaquent Mussolini et ceux qui défendent la colonisation italienne en Éthiopie. Et parmi ceux-là, donc les intellectuels de droite, leur texte s'intitule Manifeste des intellectuels pour la défense de la paix, etc. Donc vous voyez que il y a ce malentendu dès l'origine, et j'ajouterai d'un mot que ça rebondit après la Deuxième Guerre mondiale, car à ce moment-là, il y a eu, à cause de Vichy, à cause de l'épuration, il y a eu un désaveu, n'est-ce pas, des intellectuels de droite, que l'intellectuel c'était Jean-Paul Sartre, c'était Albert Camus, c'était les temps modernes, et par conséquent, les intellectuels étaient forcément de gauche. Mais, encore une fois, pendant toute cette histoire du 19e, du 20e et du début, il y a toujours eu des intellectuels de droite.
Alors, bon, on a bien compris qu'il y a la question de s'auto-proclamer intellectuel, ce que ne feront pas donc immédiatement les intellectuels de droite, mais ça n'empêche pas qu'évidemment, ils existent. Et Olivier Dard, peut-être pour continuer, poursuivre sur cette fin du 19e siècle, on a parlé de Maurice Barrès, qui va être vraiment l'un des plus importants de ces intellectuels. Parler, qui sont-ils ? C'est-à-dire des écrivains, des universitaires, beaucoup de journalistes. Hein. Et là, la question des médias est extrêmement importante, parce que on est intellectuel, mais il faut, pour pouvoir diffuser ses idées, bien sûr, il faut des supports, des médias, des relais.
Absolument. Pour compléter ce que disait Michel Vinocq, je crois qu'il y a aussi un autre élément à prendre en considération. C'est finalement le positionnement de ces acteurs à l'intérieur du système de formation français et de ce qu'ils pensent du système de formation français. Et puisque nous sommes ici à la Sorbonne, il est tout à fait intéressant de voir que ceux que l'on va appeler les intellectuels de droite éprouvent vis-à-vis de cette institution un certain malaise, pour ne pas dire plus. Car derrière la question, évidemment, du positionnement pour ou contre Alfred Dreyfus, il y a à souligner toute l'importance de l'enseignement, la recherche, que l'on n'appelle pas encore la recherche, mais on commence à parler des laboratoires, et du rapport, justement, existant à cet égard entre la France et l'Allemagne. Et, de ce point de vue, les intellectuels de droite contestent deux choses. D'abord, ils considèrent que le système de formation français serait beaucoup trop dominé par les méthodes allemandes, et notamment en histoire, ce qui va les conduire à aller rechercher notamment Fustel de Coulanges. Deuxième élément important, ces intellectuels vont considérer aussi que la République, la raison, tout ce qui est porté par ce système né des années 1870 doit être remis en cause, car l'affaire Dreyfus, c'est aussi une crise politique majeure après la crise du 16 mai 77 ou la crise boulangiste des années 1888-1889. Et dans ces conditions, ils ne sont pas, justement, des universitaires. en particulier pour la bonne et simple raison que de l'instant où ils sont positionnés comme ils sont positionnés, il est absolument impensable pour eux, à ce moment-là, d'envisager des carrières. Les choses changent d'ailleurs après la Première Guerre mondiale.
En même temps, Olivier Dard, vous dites cela, mais beaucoup aussi vont se rencontrer, intellectuels de gauche et intellectuels de droite, dans le même lieu, pour beaucoup d'entre eux, à l'École normale supérieure. Il y a des filiations, en fait. Et la catégorie même intellectuelle de droite est hétérogène dès le départ.
Oui,
mais... Et certains seront à gauche, puis vont passer à droite.
Alors, attention, justement, me semble-t-il, à ne pas surévaluer l'École normale supérieure, et surtout pas à ce moment-là. Vous parliez de Maurice Barrès. On peut ajouter Charles Maurras et en ajouter un certain nombre d'autres. Jacques Bainville. Ces gens n'ont pas fait d'études. Pour des tas de raisons différentes.
Ils se sont formés sur le tas.
Ils ont un rapport, effectivement, à l'institution universitaire très compliqué. Et quand ils ont fait des études, notamment à l'Action française, c'est Pierre Lasserre, par exemple, qui a soutenu sur un mode particulièrement délicat une thèse en Sorbonne sur la littérature, ou d'autres intellectuels. Donc, il y a, effectivement, d'autres canaux d'accès à la notoriété, et ces canaux d'accès à la notoriété passent effectivement par l'écriture, par la presse, par les revues, dont ils vont faire un instrument absolument extraordinaire, et à leur profit. Et de ce point de vue, l'intellectuel de droite est d'abord un journaliste, un écrivain, plus qu'un universitaire. Ce ne sont, pour le dire clairement, que très peu d'intellectuels experts, si vous voulez. Hein. Et à cet égard, Barrès, Maurras vont construire une légitimité hors de ces institutions universitaires. Et la chose va continuer par la suite. Je vais laisser parler Claire Blandin. Mais Michel Vinocq parlait effectivement de la question de l'après-Seconde Guerre mondiale. On retrouve quelque chose de tout à fait comparable avec le phénomène des hussards. Littérature dégagée contre l'engagement de Jean-Paul Sartre. Et il y a aussi, chez ces intellectuels de droite, quelque chose qui les caractérise, c'est un certain refus chez eux de se retrouver, au fond, engagés dans des structures. Il y a les manifestes dont a parlé Michel Vinocq, mais on trouve rarement, très rarement, des comités, comme par exemple ont pu être
le comité
de vigilance des intellectuels antifascistes pendant l'entre-deux-guerres.
Alors, on reviendra aussi sur les valeurs que défendent évidemment ces intellectuels de droite, parce qu'il y a une continuité. Claire Blandin, sur la question, donc, nous parlions des supports de diffusion de cette pensée, en tous les cas, les médias, les revues, la critique littéraire. Alors, peut-être sur la question de la presse, vous qui travaillez, vous avez fait votre thèse sur le Figaro littéraire, et vous travaillez beaucoup sur la presse
sur
en général.
Sur ces médias, et effectivement, comme je vous disais en préparant l'émission, je me trouve dans une situation un petit peu paradoxale, parce que Michel Vinocq, quand il m'a lancé dans mes recherches, je devrais pas le dire, mais ça fait presque 20 ans, m'a posé une question en me disant, mais Claire, est-ce qu'il y a des intellectuels à droite au moment de la libération, avec effectivement cette question de l'engagement. Est-ce qu'on peut dire que à ce moment-là, puisque ce qui caractérise les intellectuels à la libération, c'est cet engagement, est-ce qu'on peut qualifier ceux qui sont à droite d'intellectuels? Alors, j'avais forgé donc dans mon travail sur le Figaro littéraire la notion de contre-engagement pour dire que d'une certaine manière, ils s'engageaient sans s'engager puisque c'était pas ce qu'ils voulaient, et que effectivement, comme Olivier Dard vient de le suggérer, il se retrouve plus dans une analyse littéraire et il se retrouve plus justement dans d'autres formes de médiatisation. Et c'est vrai que le Figaro littéraire est un espace pour eux assez intéressant et qu'ils accueillent le phénomène des hussards comme un phénomène formidable, puisque c'est le retour à la littérature lorsque ces romanciers réinvestissent justement la forme du roman. Donc c'est vrai que ces définitions, elles évoluent. Mais on a commencé avec l'affaire Dreyfus, et je pense qu'il faut vraiment y insister parce qu'elle est fondatrice par rapport au questionnement que vous posiez d'entrée de jeu. Il me semble que derrière la dénonciation des intellectuels par Brunetière en 1898, donc Michel Vinocq vient de rappeler, on trouve aussi une certaine conception de la société. Cette conception de la société, elle va de pair avec le nationalisme. Et l'enjeu pour
alors
ces intellectuels,
pourquoi le nationalisme, faut remettre
parce que l'enjeu, c'est la cohésion avec l'affaire Dreyfus. L'enjeu, c'est vraiment la cohésion de la société, et que les intellectuels Dreyfusards sont accusés de saper cette cohésion.
Ils remettent en question aussi l'autorité. Enfin,
tout à fait. Cette idée-là.
Hein.
Et ce parti nationaliste, en fait, fait des intellectuels les ennemis de la nation. Pour nous, je pense, pour comprendre le contemporain, c'est une clé extrêmement importante. Dans votre présentation initiale, vous parliez d'une dynamique égalitaire, hein, d'un certain côté, contre la défense de la civilisation de l'autre. Il me semble que c'est une manière de revisiter effectivement ces problématiques avec un autre élément qu'il faut introduire, je pense, aussi ici, qui est la défense de l'individu. Dans l'affaire Dreyfus, il y a aussi cette dimension-là, et que pendant tout le siècle qui vient de s'écouler, on va voir les intellectuels de gauche s'engager dans la défense effectivement de l'individu, de l'égalité, et on va voir des prises de position plus conservatrices sur qu'est-ce que ça fait évoluer sur la cohésion nationale, effectivement.
Et donc, toutes ces problématiques dans ce contexte, justement, de fin 19e, où aussi la République est toute jeune, enfin, alors est-ce qu'on ne peut pas parler vraiment de parti de droite, enfin, la formation de droite, de plusieurs droites, hein, en fait, qui va tenter de s'intégrer plus ou moins à ce nouveau régime, Michel Vinocq?
Oui, sans doute, mais il reste une ligne de clivage, hein, important entre ceux qui ont adhéré à la République et ceux qui vont s'y rallier difficilement et sans accepter du reste les fondements de la République. Je pense en particulier au rapport entre la République et l'Église, et l'Église catholique. Bon. Pour revenir un tout petit peu en arrière et pour aller dans le sens d'Olivier Dard, qui nous a parlé un peu de la sociologie des intellectuels, je prendrai pour l'illustrer le cas de l'Académie française. Pendant l'affaire Dreyfus, il y a eu un membre de l'Académie française qui a été Dreyfusard. C'est Anatole France. Et Anatole France, du reste, a fini par ne plus mettre les pieds à l'Académie, dont l'immense majorité était anti-Dreyfusard. Donc, cela montre bien effectivement qu'il y a, il ne faut pas exagérer systématiquement, naturellement, il y a toujours des exceptions, Anatole France en est une d'un côté, et on trouverait parmi les Dreyfusards, évidemment, des écrivains, à commencer par Émile Zola. Mais c'est vrai que le noyau dur, si on veut, c'est quand même l'université d'un côté et de l'autre le monde littéraire. Bon, c'est encore une fois ne pas exagérer, mais quand même, ce sont des centres de gravité extrêmement importants. Alors, quant à l'école normale, là, je ferai cette remarque, c'est que l'école normale supérieure de la rue d'Ulm a été un foyer intellectuel considérable. Pourquoi ? Parce que l'université française est très en retard. Elle a été organisée tardivement, sous la Troisième République, précisément. Mais les grands professeurs, n'est-ce pas, et les élèves, les normaliens, étaient tout de même à la pointe, je dirais, du monde intellectuel à la fin du XIXe siècle. Et puis, peu à peu, l'université s'est développée. Il y a eu la nouvelle Sorbonne qui est née précisément à ce moment-là, et dont nous voyons aujourd'hui un des résultats, le grand amphithéâtre, mais c'est tardif, n'est-ce pas ? Et il y a un leitmotiv chez beaucoup d'observateurs qui est de dire « Nous avons été vaincus par les Prussiens, par l'Allemagne, parce que nous avions un retard intellectuel. Eux, ils ont de grandes universités, alors qu'en France, il n'y en a pas. » Donc, pour revenir alors sur le contenu, il est vrai que Claire a employé un mot, nationalisme, et ce mot nationalisme, il est à peu près contemporain du mot intellectuel. Il a été lancé au début des années 1890, mais véritablement, il a pris corps au moment de l'affaire Dreyfus, et l'un de ses théoriciens, c'est, nous y revenons, Maurice Barrès. Alors, que disait-il, ces anti-Dreyfusards nationalistes? Il disait ceci, que on ne peut pas mettre en question l'avis, les conclusions d'un conseil de guerre. Pourquoi ? Parce que si on le fait, on attente à l'armée, à la cohésion de l'armée, et finalement à l'obéissance, par conséquent, aux supérieurs de l'armée, et c'est remettre en question la société française. N'oublions pas que nous sommes que quelques décennies après la guerre, la défaite de 1870, que l'armée est sacro-sainte et que ces Dreyfusards, avec leurs idées universelles de justice, de vérité, ils remettent en cause, par conséquent, l'autorité de l'armée. Et c'est en ce sens que ces nationalistes considèrent que l'ennemi, bien sûr l'ennemi éternel, c'est l'Allemagne, mais que le véritable ennemi, il est à l'intérieur, d'où va se construire toute une théorie et une idéologie que Barrès, Maurras et d'autres, n'est-ce pas, vont formuler, qui est que l'ennemi intérieur, l'anti-France, est représenté en particulier par les intellectuels. Alors évidemment, il y a les francs-maçons, il y a les juifs,
les protestants,
il y a les protestants, il y a les étrangers, mais aussi, ne l'oublions pas, les intellectuels.
Et alors, justement, donc on parle beaucoup de Barrès, évidemment, écrivain reconnu, académicien, etc., homme politique également, peut-être Olivier Dard, celui qui va aussi prendre le relais et d'une certaine manière asseoir ce pouvoir intellectuel de droite, c'est Maurras et son Action française, parce que lui, il va aller plus loin, c'est-à-dire il va théoriser, il va pas rester dans une optique poète ou romancière de cette idée du nationalisme, et il va créer une ligue, un journal des jeunesses d'Action française, et ça c'est extrêmement important pour pouvoir justement rayonner sur un pays intellectuellement.
Tout à fait. Je dirais que la grande différence entre Barrès et Maurras, qui ont été, bon, même s'ils ont seulement quelques années d'écart, ils ont été très rapidement amis. Et Barrès a reconnu très tôt, très vite, en Maurras, quelqu'un, pour lui, d'absolument essentiel. Cela étant, les deux hommes avaient des divergences importantes, puisqu'en réalité, Maurice Barrès et son nationalisme voulaient effectivement transformer en profondeur un régime républicain pour lui conférer en particulier au pouvoir exécutif un rôle beaucoup plus important qu'il ne l'avait dans le régime de cette République parlementaire, mais à aucun moment Barrès n'a franchi le pas qu'a franchi Maurras pour sa part, qui était de passer de la République à la monarchie. C'est tout le thème du nationalisme intégral de Maurras. Mais Maurras n'est pas, à la différence de Barrès, ou n'est pas seulement un écrivain, n'est pas seulement un journaliste, c'est quelqu'un qui entend être un maître. Et c'est toute la différence entre Barrès et Maurras. Maurras entend être un chef d'école, c'est d'ailleurs tout à fait étonnant de voir cet homme sourd depuis son âge de 14 ans pouvoir réussir au fond à construire, au tournant du XXe siècle, une forme d'organisation tout à fait étonnante qui repose sur plusieurs piliers. D'abord, un journal, ça a été la grande obsession de Charles Maurras, qui est d'abord un journaliste, et le quotidien L'Action française naît effectivement dans les premières années du XXe siècle.
Et va tirer à combien, Olivier? Parce qu'on a oublié la proportion, les énormes tirages des journaux.
Pas tant que ça pour L'Action française. Plusieurs disaient, alors ça dépend des moments, 60 000, 70 000, 100 000, ça dépend des moments. Mais c'est en même temps quelque chose, c'est un quotidien qui est lu, qui est commenté. Maurras en particulier est celui qui introduit notamment la notion de revue de presse, et c'est quelqu'un qui compte, auquel on répond, et on répond de plus en plus. Mais l'Action française, ce n'est pas seulement un journal, c'est aussi une ligue, c'est aussi un institut, l'Institut d'Action française, qui entend se construire comme une forme de contre-Sorbonne, et là on retombe évidemment sur le débat que nous avions tout à l'heure, et l'Action française, c'est enfin un certain nombre d'organisations étudiantes, notamment les Camelots du Roi, qui entendent peser, et de quel poids, au quartier latin avant 1914. Il y a donc sur le front culturel et politique une lutte absolument essentielle. Et ce que je voudrais ajouter, puisque vous parliez des organisations de droite, c'est le décalage profond, pour ne pas dire irrémédiable, qui existe au fond entre ces intellectuels de droite et les forces politiques de droite constituées.
En même temps, le projet de Maurras, c'était pas de réunir justement ces droites hétérogènes
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, le projet de Maurras, il est clair. Il est de devenir ce qu'il a réussi à être progressivement, le patron du nationalisme. C'est-à-dire qu'au fond, les différentes entreprises nationalistes passent par une organisation, une forme d'organisation qui est la Ligue. La Ligue, ce n'est pas un parti. C'est un groupe de pression, c'est une organisation un peu hybride, et Maurras va réussir à prendre le pas sur la Ligue de la Patrie française qui avait été lancée par Jules Lemaître. Mais en même temps que les ligues nationalistes se constituent et qu'au fond l'Action française se trouve dans ce milieu dans une position d'hégémonie avant 1914, car la Ligue des Patriotes, dont Barrès fut le dernier président à partir de 14, est une organisation moribonde, à côté des ligues, il existe un certain nombre de partis politiques. Et c'est là où militent les Poincaré et tous les autres. Mais de ce point de vue, même s'il peut y avoir des liens, par exemple, entre Poincaré et Barrès, par exemple, il n'y a pas de, si vous voulez, de lien entre les intellectuels de droite et les organisations. Et je dirais, pour simplifier, que ce qui frappe à droite, c'est le pouvoir culturel que peuvent avoir ces intellectuels, un pouvoir culturel incontestablement, mais qui ne trouve pas de relais politique et partisan. Car l'Action française n'a jamais réussi, sur le plan politique, à être à la hauteur de ses ambitions intellectuelles.
Et les intellectuels de gauche, en revers, par contre, est-ce que eux, à ce moment-là, hein, je parle bien de cette fin du 19e, début 20e siècle...
Oui, les intellectuels de gauche, enfin, Michel Vinogue peut peut-être en parler, par rapport au Parti Socialiste, etc. Là, on a tout autre chose, on
dès
a un autre
dès
schéma.
Cette période.
Oui, il y a eu, pendant l'affaire Dreyfus et au-delà, un ralliement de nombreux intellectuels dreyfusards au Parti Socialiste, avec notamment l'instrument des universités populaires, qui était donc ouverte à tout le public, souvent menée par des socialistes, et où des intellectuels, par conséquent, professeurs, chercheurs, etc., venaient faire des leçons, des conférences. Donc il y a eu un lien, c'est sûr. Ne l'exagérons pas non plus, parce que ce que vient de décrire Olivier Dard pour la droite est vrai aussi souvent pour la gauche. Et ce qui fait le propre des intellectuels souvent, c'est précisément de ne pas être engagé dans un parti.
Un féodé, on va dire.
Un féodé, si vous voulez. Ça viendra avec le Parti communiste. Mais jusqu'à la naissance du Parti communiste, les intellectuels de gauche ont été suffisamment indépendants pour s'exprimer par eux-mêmes et être en désaccord avec les organisations politiques.
Je voulais simplement dire, Michel Vinocq, et je vous laisse parler clair, que j'appelais effectivement des formes d'engagement, le terme est un peu anachronique, ne signifiait pas inféodation, mais au moins forme de rattachement. On n'imaginait pas des intellectuels de droite à la LP ou à la Fédération républicaine, si vous voulez.
Alors Claire Blandin, peut-être vous voulez...
Ah, juste oui, pas, sur ça. Le contexte médiatique, effectivement, parce que là, on est en train de glisser d'une période à une autre, donc de la période, effectivement, de l'affaire Dreyfus, où, du côté des médias, les médias de masse, ce sont de grands quotidiens populaires.
Du type, le petit journal, voilà, 400 000 exemplaires.
Le Petit Parisien, par contre, ces quatre grands dominent absolument le terrain médiatique. Ils tirent à 4,5 millions d'exemplaires à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc ils ultra-dominent ce monde médiatique. Ce sont vraiment des médias de masse, hein, au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que les conversations quotidiennes sont faites de ce qu'on trouve dans le petit journal. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve du fait divers. On y trouve des jeux. Alors certes, on y trouve une forme de soutien aux grandes valeurs de la Troisième République, hein, bien sûr, le mythe de la revanche, l'entretien du souvenir des provinces perdues, l'accompagnement de la construction de l'empire colonial, bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'on est de prise de position des intellectuels dans ce type de médias.
Mais alors certains intellectuels, pourtant, ils publient des unes, enfin, ils sont même invités à publier parfois
tout à fait.
De grands articles, enfin,
et
Barrès,
la Première Guerre mondiale, de ce point de vue-là, est un moment charnière, hein. On sait que c'est ce moment où ces grands quotidiens partent dans un phénomène de bourrage de crâne, et c'est vrai qu'il y a un divorce entre la population française et ces grands médias de masse qui se produit à cause de ce bourrage de crâne pendant la Première Guerre mondiale. De ce fait, pendant l'entre-deux-guerres, le paysage médiatique est complètement différent. Et si l'Action française tire effectivement à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, on a un autre format médiatique qui émerge, qui sont les hebdomadaires politiques et culturels, et qui, eux, tire à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Je pense à Gringoire, hein, par exemple, qui va atteindre ses tirages, à Candide, bien sûr, à Je suis partout, qui ensuite va évoluer vers la collaboration. Mais Ces hebdomadaires politiques et culturels sont très intéressants pour nous parce que ce sont des espaces de parole pour les intellectuels de droite, justement. Alors, pour les romanciers, puisqu'on va publier des bonnes feuilles de romans...
Alors, du type, je ne sais pas, on peut citer des noms, parce qu'on a la plupart, on a...
Oui, bien sûr, tous ces romanciers de l'entre-deux-guerres vont publier. Hein, Morand va publier. On parle beaucoup d'Irène Némirovski en ce moment, qui a publié aussi dans ses titres. Mais il y a aussi des dessinateurs qui...
La caricature est très prisée.
Enfin, tout à fait, oui.
Il faut divertir. Hein.
Il faut divertir. Mais la caricature, attention, la caricature est une prise de parole politique à ce moment-là. Hein. Dans cet entre-deux-guerres, la caricature est très anti-parlementaire, très antisémite. Et on a une violence de cette vie politique de l'entre-deux-guerres qui est très visible dans ces formats-là. Il me semble que là aussi, pour le contemporain, c'est intéressant parce que dans cette période de crise de la démocratie, on se retrouve avec ce type de médias qui émergent et qui se développent.
Alors on est passé rapidement... Ah pardon, excusez-moi Michel Vinot, je voulais...
Non, je voulais simplement revenir un peu sur l'Action française pour dire deux choses. Premièrement, on ne peut pas... sous-estimer son influence qui a été considérable. L'Action française, le journal, a exercé, je dirais en termes de Gramsci, une hégémonie. Une hégémonie culturelle, car beaucoup de lecteurs de l'Action française n'étaient pas du tout d'accord avec la thèse néo-royaliste de Maurras. Je vous donne un exemple. André Gide lisait régulièrement l'Action française parce que c'était un bon journal, bien écrit, et un journal littéraire en même temps que politique. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut retenir la date de 1926, c'est-à-dire la condamnation de Maurras, de l'Action française, par la papauté.
Pourquoi ?
Par Rome. Ben parce que, tout simplement, parce que c'est l'idée que l'Action française, les théories de Maurras, qui se réclament de l'Église catholique, en fait, disait Rome, et sans doute à juste titre, ils instrumentalisaient la religion, alors qu'ils ne défendaient pas véritablement le christianisme. Du reste, Jacques Maritain, qui était un philosophe de l'Action française et qui va accepter la sentence donc de Rome, pourra dire... la seule chose du reste qui pourrait faire condamner du point de vue religieux l'Action française, c'est que son chef, Charles Maurras, est un croyant, athée ou agnostique. Donc ça veut dire que, alors il évoluera du reste, mais à l'époque, Maritain dit carrément, c'est quand même incroyable que ce grand défenseur de l'Église ne soit pas croyant. Bon.
C'est assez violent aussi. Il faut se préciser que les propos de l'Action française peuvent être assez appel au meurtre.
Oui,
mais
n'oublions pas que la presse française est une presse violente. La presse politique est une... Alors, je termine simplement avec cette condamnation pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de troubles dans les esprits catholiques parce que la grande clientèle de l'Action française était catholique. Car n'oublions pas que le catholicisme n'avait pas encore véritablement accepté une république qui était une république laïque. Et qu'il y a un divorce qui date du XIXe siècle, qui va se prolonger. Il n'y a jamais au gouvernement de chef de gouvernement catholique, il n'y a jamais de président de la République catholique, etc. N'est-ce pas ? Les catholiques sont marginalisés ou s'auto-marginalisent dans cette Troisième République. Alors, les esprits ont été très troublés. Certains, comme Maritain, ont accepté... Par conséquent, la condamnation et vont continuer leur œuvre indépendamment de l'Action française et parfois en l'attaquant. Et puis d'autres, comme Georges Bernanos, au contraire, écrivain, il se brouillera plus tard férocement avec Maurras, mais au moment de la condamnation, eh bien, il déclarera qu'il se défend, il défendra par conséquent Maurras et l'Action française. Et ça, c'est un grand moment de trouble parce que les conséquences de cela, c'est que l'hégémonie de l'Action française dans le milieu catholique va se fissurer, se délabrer un peu, au point que on va voir naître un autre type d'intellectuel qui n'est plus l'intellectuel de gauche, qui n'est pas l'intellectuel de droite, mais qui est l'intellectuel catholique. Et ça, c'est une nouveauté, véritablement. Il y a déjà eu des catholiques libéraux, etc. Mais il n'empêche que c'est une nouveauté. Dans les années 30, on voit se développer véritablement des groupes catholiques, parfois progressistes. Et bon, je citerai évidemment la figure la plus symptomatique de cela, c'est Emmanuel Mounier qui fonde la revue Esprit. Et au départ, Esprit n'est pas de droite ou de gauche, n'est-ce pas ? Et refuse justement l'alignement de la droite et de la gauche. Donc, émancipation d'une intelligentsia catholique après la condamnation de l'Action française.
Alors, une autre rupture qui est importante aussi, dont on n'a pas parlé, qui va créer rupture en tous les cas chez les intellectuels de droite, c'est bien sûr la guerre, quand même, la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a quand même une génération d'intellectuels de droite qui va disparaître, qu'il s'agisse des anciens ou des nouveaux. Une nouvelle génération née au début du XXe siècle va arriver, va devoir côtoyer cette ancienne génération, va être amené aussi à prendre des responsabilités assez rapidement, hein, d'une certaine manière, Olivier Dard. Et là, ça va changer aussi la configuration de cette catégorie intellectuelle, cette génération intellectuelle de droite.
Tout à fait. Dans la Première Guerre mondiale est effectivement une rupture essentielle. Et pour se rendre compte des conséquences de la Première Guerre mondiale, notamment sur l'Action française dont on parlait, il suffit de se reporter à un livre de Maurras qui s'appelle « Tombeau » et où on voit, à travers tous les hommages qu'il rend à un certain nombre de militants d'Action française tombés, l'importance effectivement de la saignée qui a touché évidemment l'Action française. Mais plus généralement, effectivement, il y a cet élément, mais il y a aussi, et je voudrais reprendre ce que disait Michel Vinocq à propos de l'hégémonie, cette hégémonie, elle est, à mon avis, très pertinente au début des années 20. Au début des années 20, car il y a un autre élément que je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a dit Michel Vinocq, c'est toute l'influence de l'Action française à l'étranger. Belgique, Espagne, etc. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Les étrangers aussi lisent l'Action française. Michel Vinocq parlait d'André Gide. Walter Benjamin lit l'Action française. Il l'explique très clairement dans sa correspondance à Gérald Scholem. Alors, il y a ensuite effectivement la condamnation dont vous parliez, mais cette condamnation en même temps, elle va permettre à la fois l'émergence d'un intellectuel catholique, c'est certain, mais elle permet aussi à droite la naissance aussi d'autres figures qui vont s'émanciper de ce monde catholique. Et si un certain nombre de catholiques d'Action française vont rester dans le giron de l'AF, et je pense en particulier à Henri Massy, qui est sans doute la figure la plus importante, hein, même si elle est moins connue aujourd'hui, c'est lui la figure sans doute la plus importante, parce que Henri Massy, c'est d'abord Barrès, puis Maurras, puis celui qui va plus ou moins former la nouvelle génération, c'est-à-dire Molnier et Brasillach. Et donc, à cet égard, il a un rôle absolument essentiel. Et Massy, et là je voudrais rebondir sur ce que disait Claire Blandin, c'est aussi un acteur, un entrepreneur culturel essentiel. Le manifeste de 1935 dont parlait Michel Vinocq, c'est Henri Massy. La revue universelle, c'est Henri Massy. Et derrière, si vous voulez, les journaux les plus connus, et notamment l'Action française, il y a les revues dont on parlait, mais il y a aussi toute une série de maisons d'édition, et notamment la maison Fayard.
Donc il y a. Qui va soutenir, qui va faire créer justement ces revues dont parlait Claire Blandin tout à l'heure. Hein,
c'est Fayard qui fait créer Candide. Et si vous voulez, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est quelque chose de tout à fait essentiel parce que ça permet effectivement à ces gens de rayonner et de rayonner de multiples façons et aussi de gagner leur vie. Car ce que l'on sait aujourd'hui, que ce soit pour des acteurs comme Drieux, etc., c'est que la vente des livres ne leur permettait pas de vivre. Les tirages des ouvrages, on se plaint toujours aujourd'hui des tirages des ouvrages, mais quand on a pu accéder à la comptabilité d'un certain nombre d'auteurs de ces années 30, on constate que les tirages ne sont pas extraordinaires.
On est journaliste et écrivain.
Voilà. Et on vit avec les grands hebdomadaires, on publie dans des petites revues, et notamment cette jeune droite publie dans Réaction, publie dans la Revue du Siècle, Civilisation, etc. Mais là, on publie gratuitement, et on publie effectivement des ouvrages qui sont importants pour le prestige, mais qui ne rapportent pas grand-chose.
Claire Blandin, oui, ce ne sont pas les stars médiatiques de cette période, hein, il ne faut pas l'oublier. La star médiatique de cette période, c'est la figure du grand reporter. Et ce sont les grands reporters qui sont payés à prix d'or, d'abord par les grands quotidiens populaires, puis par les hebdomadaires, pour aller ramener des reportages qui sont ensuite publiés sous forme d'ouvrages. Ces stars s'appellent Joseph Kessel, se sont appelés Albert Londres un peu avant. Donc c'est effectivement, ils sont dans une, ces intellectuels de droite sont dans une autre position. Après, c'est vrai qu'on a des formats médiatiques qui vont évoluer et les accueillir. Au Figaro, on a un changement majeur, bien sûr, avec l'arrivée de Pierre Brisson à la direction littéraire en 1934 et à la direction du journal en 1936. Alors, ça fait suite à ce qu'on appelle l'aventure Coty dans l'histoire du Figaro, hein, cette prise de pouvoir par un actionnaire majoritaire qui s'appelait François Coty, qui vient du monde de la mode, puisque c'est l'inventeur du poudrier, c'est comme ça qu'il fait fortune dans les années 20. Et François Coty cherche un outil pour faire valoir en France ses idées fascistes. Et c'est pour cela qu'il rachète le Figaro et qu'il arrive à la tête du quotidien en 1922-23. Sauf que ça ne marche pas. Sauf qu'il y a une résistance à la fois des journalistes et du public du Figaro, qui est un lectorat conservateur, mais qui ne suit pas cette évolution vers le fascisme. Et donc le journal perd des lecteurs de manière assez importante pendant cette période, et donc est repris avec un nouveau projet par quelqu'un qui vient de ce monde des lettres, hein, qui est Pierre Brisson, et qui va appeler autour de lui toute une partie de cette génération, hein, Drieu La Rochelle, Paul Morand, puis François Mauriac, puis Pierre Gaxotte, puis Thierry Monnier, etc., qui vont renouveler vraiment cette forme en replaçant le littéraire au cœur du projet médiatique.
Et alors, en termes de genre, parce qu'on n'a pas parlé, alors on parle toujours de ces intellectuels, c'est des clercs, hein, donc imaginez décliner au féminin, je ne sais pas ce que ça donne. Claire Blandin,
alors,
les femmes dans un monde de droite et dans un monde d'intellectuels de droite.
Alors là, je vais refaire un petit retour en arrière. Si on reprend sur cet engagement des femmes dans la politique et dans la vie intellectuelle, il y a une rupture majeure pour les femmes qui est la révolution de 1848, à laquelle elles prennent part. Il y a une figure que tout le monde connaît qui s'appelle George Sand, qui va vraiment prendre la plume pour soutenir cette révolution. Les femmes vont être actrices de cette révolution de 1848 et on va leur attribuer largement l'échec de la révolution de 1848 et de là une série d'invectives sur ces mégères hystériques, etc., qui se sont fourvoyées dans ce mouvement de 1848 et pendant toute la fin du 19e siècle. Ces femmes dans le journalisme vont vraiment avoir du mal à se faire entendre. Il y a une exception majeure, bien sûr, qui est l'expérience de la Fronde, puisque Marguerite Durand crée un quotidien qui est entièrement féminin, hein, totalement réalisé par des femmes, jusqu'au garçon d'ascenseur qui était une femme, pour ne pas perturber l'ensemble des gens présents dans l'immeuble. Et à part la Fronde, elles vont avoir beaucoup de mal à s'imposer dans ce milieu. De toute façon, c'est assez simple, hein, elles sont exclues des associations de journalistes, elles sont exclues. Si vous prenez le répertoire des journalistes dans toute la première partie du XXe siècle, il n'y a pas de femmes. Forcément, les journalistes hommes refusent qu'elles soient journalistes. Alors elles vont essayer d'en faire un atout, justement en disant que c'est ce qui leur permet d'être de vraies journalistes indépendantes, puisqu'elles sont exclues du monde politique, puisqu'elles sont exclues de la bourse. Eh bien, elles disent, nous allons faire des papiers qui ne seront pas de complaisance, hein. Nous allons vraiment vous expliquer ce qui se passe dans ce monde politique, dans ce monde des affaires, mais ce sont quelques exceptions qui ont du mal à se faire entendre.
Et des femmes d'influence, peut-être, Olivier Dard, dans l'Action française
Il y en a quelques-unes, oui. Il y a les dames d'Action française et les jeunes filles. Et c'est moins négligeable qu'il y paraît, sachant que, à la fois, toute cette question des femmes pose aussi évidemment le problème du droit de vote. Mais un certain nombre de travaux récents, notamment sur les femmes d'Action française ou même sur la Ligue patriotique des femmes françaises, ont montré qu'il y avait des associations de femmes importantes, hein, à la veille, déjà avant 14 et surtout après. Alors du côté effectivement de l'Action française, peu de rédactrices, sauf la femme de Léon Daudet, Pampille, qui est une des figures de l'Action française, mais des femmes qui peuvent jouer un double rôle, assez classique mais important, en matière de financement. L'Action française naît parce que, notamment la femme de Daudet et quelques autres, l'Ursalus, etc., vont aider au financement. Et deuxième élément important, le rôle de certains salons.
Les salons,
qui,
bien sûr.
Qui jouent effectivement un rôle tout à fait essentiel. Et Maurras a beaucoup, beaucoup été soutenu par ce biais-là. Salon à dominante aristocratique, il faut le dire.
Michel Vinocq.
Claire, vous avez oublié tout de même Séverine.
Voilà, oui, je n'oublie pas. Voilà.
Parce que Séverine a tout de même été une journaliste très influente.
Bien sûr.
Elle a écrit dans Le Cri du Peuple de Vallès, dont elle était la collaboratrice, et ensuite dans d'autres journaux. Elle a rompu au moment du boulangisme, justement, avec un certain nombre de ses collaborateurs. Et Séverine, c'est une grande figure de femme journaliste. Et peut-être qu'il y en a-t-il d'autres. Mais je pensais à elle, n'est-ce pas, quand vous faisiez le bilan. L'unité formée par l'Action française à droite va en effet se dissoudre et on va voir apparaître le phénomène des dissidents. Les dissidents d'hommes en race qui, dans les années 30, vont avoir de plus en plus de sympathie, parfois de conviction, par rapport à Mussolini, au fascisme, à Hitler même. Et ceux-là, on va les retrouver dans le journal « Je suis partout ».
Et cette dissidence, elle est due justement à une problématique de génération. Ils sont plus jeunes, ils sont
certainement,
plus...
Certainement, oui. Je pense que, en grande partie. En grande partie, alors... Bien entendu, il ne faut pas limiter à ce groupe de « Je suis partout » les intellectuels de droite et d'extrême droite. Il y en a d'autres, par exemple Drieu-La Rochelle, qui n'a jamais été d'Action française, qui, après 1934, après la journée du 6 février 1934, s'auto-proclame fasciste et cherche les voies d'un fascisme français. Et finalement, il va adhérer, en 1936, au PPF de Jacques Doriot. Mais à côté de lui, vous avez Ramon Fernandez, vous avez Alfred Fabrelus, vous avez Jouvenel. Donc, il y a toute une série d'intellectuels qui ne sont pas passés par l'Action française et qui se retrouvent à l'extrême droite. Ça, c'est un phénomène, je crois, extrêmement important. Et quand on parle du fascisme français, je dirais qu'il est principalement là, chez les intellectuels, chez les écrivains, Brasillac, Robatet, qui défendent par conséquent les principes du fascisme. Quand,
avec cette idée qu'il faut un fascisme intérieur pour combattre le fascisme étranger aussi, chez certains.
Et ben justement, c'est là leur faiblesse, n'est-ce pas ? C'est que le fascisme est un nationalisme, mais que leur nationalisme à eux... il est avant tout intérieur, et que le principal danger du fascisme fasciste, c'est Hitler, et que mais ça, c'est le problème au-delà des intellectuels de droite, ça a été aussi le problème des intellectuels de gauche, pour beaucoup, et notamment du comité des intellectuels antifascistes, qui s'est brisé sur la question du danger hitlérien entre ceux qui... voulant rester pacifiste jusqu'au bout,
contre la guerre,
ont été des munichois, c'est-à-dire favorables, n'est-ce pas, à la conférence de Munich, à la reddition de la France et de l'Angleterre devant Hitler, alors que les autres étaient des anti-munichois, à ce moment-là très largement influencés par le Parti communiste, n'est-ce pas. Donc il y a eu, à gauche comme à droite, des cassures à ce moment-là dans les années 30.
Olivier Dard, sur oui, ces années
alors,
30...
Oui, alors donc, un mot sur les dissidences de l'Action française, pour dire d'abord que ces dissidences de l'Action française appartiennent à toute l'histoire de l'Action française. Les premières dissidences de l'AF remontent à avant 14. Et il y en a eu toute une série, notamment dans les années 20, Georges Valois, puis celle des années 30. Bon, je crois qu'il y a une part de phénomène de génération, sans doute, mais il y a aussi un autre problème, qui est le rapport de Maurras à l'Action. Et la frustration, qui est celle d'un certain nombre de militants, de voir qu'en réalité, à chaque fois que le slogan de l'année universitaire annonce « l'an prochain, le roi à Paris », à la fin, le roi n'est jamais à Paris. Et le 6 février 1934 peut être lu comme, effectivement, l'échec d'une possibilité, qui n'a jamais d'ailleurs été entrevue à l'Action française, d'une prise de pouvoir. Donc je crois que c'est un élément tout à fait essentiel. Par rapport à la question...
Si vous permettez, le 6 février, c'est tout à fait remarquable, puisque la doctrine de Maurras, c'était le coup de force, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on devait arriver au pouvoir par un coup de force. Le 6 février, cette journée convulsive arrive, et que fait Maurras, n'est-ce pas ? Eh bien, il écrit un poème dans les bureaux de l'Action française. Voilà. Donc, en tout cas, c'est la légende, n'est-ce pas, qui court là-dessus. Il n'est pas du tout. C'est un théoricien de chambre. Il n'est pas du tout un homme d'action. D'où la frustration, effectivement, de ces jeunes gens, n'est-ce pas, qui attendaient de l'Action française de l'action volontariste.
Et alors, troisième élément, c'est la question, je laisse parler Claire, la question justement du fascisme par rapport à l'étranger, c'est le fait qu'il n'y a pas en France non plus de dirigeants susceptibles de, à part effectivement Jacques Doriot, d'où l'intérêt de ces fascistes français pour Codré Anou, pour Primo de Rivera, pour Léon de Grelle, et on lit notamment dans Je suis partout, évidemment pas dans l'Action française, toute une série de reportages enthousiastes sur la Roumanie, la Belgique ou l'Espagne.
Claire Blandin, je voudrais juste terminer sur le 6 février 34, sur la question de ces relais médiatiques, effectivement, parce que c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les Français ne savent pas ce qui se passe à Paris le 6 février 1934, alors qu'il y a un nouveau média de masse qui s'appelle la radio, qui fait de l'événementiel en direct, qui raconte les matchs de boxe, qui raconte les compétitions de vélo dans les vélodromes. Mais on ne sait pas ce qui se passe place de la Concorde, parce qu'il y a une emprise sur ces radios, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs à ce moment-là. Et donc ce n'est que le lendemain que dans les journaux, on comprend un peu l'ampleur de ce qui vient de se passer ou justement de ne pas se passer.
Alors pour terminer assez rapidement, Olivier Dard.
Oui, j'étais 19 morts quand même le 6 février, 15 plus 4, avec ceux qui sont morts juste après. Donc c'est effectivement un traumatisme considérable.
Après avoir galopé donc de la fin du 19e jusqu'aux années 30, juste alors vraiment pour conclure, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'intellectuel de droite, c'est quand même celui qui a collaboré et donc et qui pendant l'épuration pour certains quand même va être condamné, donc l'intellectuel de droite, enfin voilà.
L'intellectuel de droite, c'est le paria, indiscutablement dans les années 45-46 de l'après-guerre. D'où le phénomène des hussards dont on a parlé tout à l'heure, qui est intéressant parce que il veut avec Roger Nimier, avec Jacques Laurent, un certain Déon, etc. Ces jeunes écrivains se disent apolitiques, n'est-ce pas ? Avant tout, retour à la littérature. Ça ne durera pas longtemps, parce que quand il y aura la guerre d'Algérie, on les verra tous engagés derrière le slogan « Algérie française ».
Olivier Dard, un dernier mot.
Oui,
avant que
effectivement, ça mériterait une autre émission.
Mais oui.
Mais ils n'ont pas tous collaboré. Mais effectivement, ils font partie de ce qu'on appelle les vaincus de la libération. Et ajoutons que l'épuration de la presse a évidemment été préjudiciable. Alors, les hussards, oui, bien sûr. Mais au-delà de la question des hussards, toute la difficulté aussi qui a été la leur pour essayer de reconstruire quelque chose, et notamment hors de l'orbite maurassienne, mais c'est une autre histoire.
Merci à tous les trois, merci Michel Vinocq, merci Claire Blandin et merci Olivier Dard pour ce débat. Alors nous avons des questions. Il y a un micro qui doit circuler. Monsieur.
Oui, je voulais vous demander un certain nombre de cas, dans quelle mesure rentrent-ils dans vos catégories ? Je pense première génération, Renan, il s'agit de réformer l'État et notamment l'université, à suite à la défaite de 71. Et y a, en même temps que Renan, il y avait un certain Boutmy qui créait l'école de Sciences Po. Bon, par ailleurs, un peu plus tard, à la veille de 14, il y avait un certain Peggy. Alors, comment classez-vous Peggy ? Et que serait-il devenu après 18 ? Bon. Par ailleurs, je pense à un certain Boutan aussi, que vous n'avez pas cité.
Bon, c'est un oubli, hélas.
Oui. Et puis alors, Thibaudet, entre les deux guerres. Simone Veil, qui est un cas évidemment un peu exceptionnel. Puis alors, pouvez-vous nous rappeler la position de Valérie, par ailleurs ? Et puis enfin, dernier...
Déjà, c'est pas mal, Valérie. Bon, peut-être déjà, on va laisser Michel Vinocq répondre déjà aux premières, à vos premières interrogations.
Voilà, oui.
C'est pas mal déjà.
Je ne peux pas faire une série de monographies, évidemment. Je relève quelques noms, simplement. Renan, que vous avez cité en premier, a joué un très grand rôle. Bon, il est mort au moment de l'affaire Dreyfus, mais certainement avec Hippolyte Taine, Renan et Taine ont été les grands inspirateurs de la pensée française, de droite, certainement, en partie de gauche dans les années de la fin du 19e siècle, dans les années 1880, etc. C'est indiscutable. Était-il de droite ou de gauche, Renan ? Bien sûr, il était maudit par la droite catholique en raison de sa vie de Jésus et son cours au Collège de France qui avait été interdit sous le Second Empire. Donc c'était plutôt un intellectuel, avant le mot, de gauche, mais en fait c'était un conservateur qui, après la guerre, dans sa réforme morale et intellectuelle de la France, a pu donner des leçons véritablement conservatrices, admiratrices de l'Allemagne, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des noms, des écrivains, des intellectuels qui sont souvent difficiles à classer, n'est-ce pas ? Quand nous généralisons, nous avons tendance à oublier que les individus ne sont pas unidimensionnels, qu'ils peuvent évoluer, etc. Alors c'est le cas naturellement de Peggy sur lequel on a beaucoup discuté, parce qu'il a inspiré également la gauche et la droite, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Peggy était le saint Peggy du maréchal Pétain, et c'était un inspirateur de la résistance. Peggy, en gros, a été un jeune normalien Dreyfusard qui a évolué vers le nationalisme, indiscutablement, mais en restant jusqu'au bout Dreyfusard, fidèle au dreyfusisme, donc ce qui est un peu compliqué. Passons sur Peggy, qui est un cas passionnant. Vous avez cité Valéry a été un anti-Dreyfusard. Simone Veil, avec un W, hein, c'est un cas très intéressant d'une philosophe qui militait à l'extrême gauche du côté des trotskistes, disons, qui s'est engagée premièrement aux usines Renault pour comprendre ce qu'était la condition ouvrière, dont elle tirera un livre, et ensuite qui s'est engagée dans la guerre d'Espagne. Mais au cours de la guerre d'Espagne, elle va découvrir l'horreur des divisions du camp républicain entre communistes et anarchistes, et POUM, le parti POUM. Et elle va dénoncer les communistes dans la guerre d'Espagne. Et nous avons une correspondance tout à fait extraordinaire entre Bernanos et Simone Veil. Bernanos, qui lui commence à la guerre d'Espagne, il est en Espagne, il est tout à fait favorable, disons, pour aller vite, aux franquistes, à Franco. Son fils s'engage même dans les troupes de Franco, et il découvre les horreurs donc des nationalistes espagnols, et il va devenir un adversaire éloquent, remarquable. Dans son livre « Les grands cimetières sous la lune », ce catholique monarchiste va écrire un pamphlet contre Franco. Et Simone Veil, elle, qui s'est engagée dans le camp républicain, elle va correspondre avec Bernanos pour dire sa déception sur le côté communiste de la guerre d'Espagne. Donc, je ne relève pas les autres noms, il y en a beaucoup, mais j'insiste sur ce fait, et je me répète, que les historiens, les sociologues tentent toujours, évidemment, de faire des généralités, sinon à quoi servirait-il ? Mais lorsque l'on s'intéresse au cas particulier, on s'aperçoit de l'extrême complexité des existences et des idées.
Une dernière question.
Quelle influence a eu Louise Michel, finalement, sur la pensée et sur le féminisme ?
Pour Louise Michel, on laissera.
Alors, Louise Michel.
Oui, alors, sur Louise Michel. Comme ça, allez. Comme ça, vous aurez chacun.
Sur Louise Michel. Bon, alors, Louise Michel, donc, elle participe à la Commune. Hein, c'est une figure majeure de ce côté-là. Et elle a l'immense avantage de revenir de déportation, hein, puisqu'elle revient de sa déportation de Nouvelle-Calédonie. Et c'est là qu'elle devient un personnage extrêmement connu, un personnage majeur. Et son cheval de bataille. Alors, bien sûr, c'est la question du suffragisme, qui occupe toute cette première vague du féminisme, c'est-à-dire la revendication des droits civiques. politique et en particulier du droit de vote, qui est la grande affaire des femmes de l'époque, mais surtout le cheval de bataille de Louise Michel, et c'est pour ça qu'elle sillonne la France. Hein, Louise Michel consacre les dernières années de sa vie vraiment à circuler, à faire des conférences, à aller partout dans les communes pour plaider sa cause, c'est l'éducation des filles. Et c'est vraiment là-dessus qu'elle va faire avancer la cause, hein, et qu'elle va être une figure majeure et une figure reconnue, c'est que les filles puissent avoir accès à l'éducation primaire. C'est déjà le cas largement dans les années 1870, c'est possible, mais surtout qu'elles puissent avoir accès aux études secondaires, ça va être la grande revendication de ces années-là.
Merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions. Merci à vous d'être là.